France Info.
Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info pour les informés. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h avec nos informés du jour. Sylvie Brunel, géographe et écrivain, avec notamment votre livre « Plaidoyer pour nos agriculteurs ». Il faudra demain nourrir le monde et avec vous et avec nos trois autres informés, nous allons parler dans quelques instants des ovoproduits. Vous connaissez probablement ce terme.
Évidemment.
Par cœur.
Évidemment.
Moi, personnellement, je l'ai découvert. Il s'agit donc de ces œufs.
Vous ne connaissez pas les casseries?
Eh bien non. J'ai découvert aussi ce mot-là, les casseries. Voilà, c'est le principe des informés. Nous allons découvrir cela. C'est tout un pan de notre consommation dont nous allons débattre aujourd'hui. À côté de vous, Geoffrey Carvalino. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau politique des Républicains. Caroline Michel, pour le service enquête de l'Obs.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Stéphane Rosès, président de la société de conseil CAP.
Bonsoir.
Bonsoir. Bienvenue à tous les quatre dans Les Informés. Sur France Info, nous commençons donc avec la Corée du Nord et les États-Unis. Et cette phrase que je disais tout à l'heure pour annoncer nos débats, « Ma bombe est plus grosse que la tienne ». Alors ça pourrait faire sourire cette phrase, ça donne une petite connotation cours d'école, mais en réalité c'est très grave puisqu'il y a une surenchère verbale autour d'une menace nucléaire. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas proférer des menaces envers les États-Unis, elles se heurteront au feu et à la colère, comme le monde ne l'a jamais vu jusqu'ici. C'est l'un des derniers tweets de Donald Trump. Est-ce que cette surenchère verbale entre les États-Unis et la Corée du Nord vous préoccupe?
Évidemment, c'est, je crois, la première fois depuis la fin de la guerre froide que le risque d'une surenchère non plus verbale mais d'une surenchère guerrière se profile de façon assez inquiétante. Tout simplement parce qu'on se demande si les propos de Trump relèvent de l'intimidation calculée, parce qu'il nous a déjà habitués à cela, ou si cela témoigne d'une sorte de dérapage et d'un risque d'aller vers une escalade nucléaire. Or, il faut quand même se rendre compte que les enjeux de cette partie du monde sont absolument considérables. Nous avons à 40 km de la frontière Séoul 10 millions d'habitants. C'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis ont déployé un système antimissile et plusieurs milliers d'hommes en Corée du Sud.
Qui ne serait pas forcément utile d'ailleurs face à une attaque de missiles non nucléaires nord-coréens.
Pendant la guerre froide, on apprenait l'équilibre de la terreur. Vous savez, c'était savoir si finalement personne n'avait intérêt à appuyer sur le bouton. Mais là, ce qui se passe, c'est que la Chine est aussi le protagoniste de cette affaire, le Japon, et que les pourparlers aujourd'hui semblent dans l'impasse.
Stéphane Rosès.
Oui, tout à fait, inquiétude. D'abord, peut-être une remarque d'ordre plus général. Je passe sous le contrôle de nos amis et de Sylvie Brunel. Nous sommes dans une situation bizarre dans le monde où les peuples sont plus interdépendants économiquement et reliés numériquement. Et pourtant, ils se séparent humainement. Partout, la montée des replis, bien sûr, ouais. Trump, le Brexit, Poutine, Erdogan, la Chine, le Japon qui se renferment sur eux, même si la Chine, en matière de commerce international, elle est pour.
Et la Corée du Nord aussi, parce que finalement, c'était un pays qui était déjà très replié sur lui-même et qui là l'est de plus en plus, puisque la Chine et la Russie sont en train de l'abandonner.
On a aussi le Japon, on a l'Europe centrale, la montée des populismes, des nationalismes. Alors ça, c'est un cadre général. Et puis, bon, voilà, on se concentre sur cette escalade verbale inquiétante avec des menaces, effectivement, d'essais en direction d'une île américaine. Alors, peut-être deux remarques. La première, c'est vrai qu'on se focalise, je crois, à juste titre, sur la question des personnalités. Le tyran nord-coréen est inquiétant, c'est un totalitarisme bien sûr, et puis la personnalité de Donald Trump laisse pantois les dirigeants internationaux imprévisibles, les Américains, il est également inquiétant. Mais ce qu'il faut sans doute voir aussi, mais je parle sous le contrôle de nos amis et surtout de Sylvie Brunel, c'est que quand même, au-delà des personnalités baroques, dangereuses, inquiétantes, il y a des idéologies. L'idéologie de la Nord-Corée s'est faite, on le sait, à partir de la guerre de Corée, par un anti-américanisme. Et là, ils sont pris dans une logique telle que même les Chinois, qui traditionnellement peuvent servir de médiateurs et de tempérés, semblent se mettre de côté du Nord-Corée. Et puis, Trump, lui, on le sait, c'est le retour des États-Unis avant même la question de l'ordre international.
Caroline Michel, ce qui est terrible, c'est qu'on se dit que cette situation, elle est finalement hors de contrôle, en effet, comme le dit Stéphane Rosès, avec ces deux personnalités totalement ingérables.
Et c'est la clé, en fait, pour comprendre la menace aujourd'hui. Nous, à l'Obs, on a une boussole qui s'appelle, en géopolitique, qui s'appelle Pierre Aski. Pierre
Aski, ça fait... Très bon papier, cet après-midi, qu'on peut lire sur le site de l'Obs.
Exactement, et qu'il faut lire. Et Pierre Aski écrivait depuis des années qu'il n'y croyait pas pour une raison contradictoire.
Il ne croyait pas à la guerre nucléaire.
Exactement, pour une raison contradictoire et en même temps logique, c'est que jusqu'à présent, avoir l'arme nucléaire avait un effet dissuasif qui fonctionnait. C'est ce qu'on a bien vu pendant la guerre froide. Personne n'avait envie, en réalité, d'appuyer le premier sur le bouton. Là, avec des personnalités aussi imprévisibles et aussi irrationnelles, peu logiques, c'est Donald Trump qui change la donne, pas le dirigeant nord-coréen.
Et écoutez, justement, tout à l'heure, pour prolonger ce que vous dites, c'est Jean-Marie Collin, vice-président de l'Initiative pour le désarmement nucléaire, qui soulignait aussi ce point sur France Info aujourd'hui.
La Corée du Nord n'est absolument pas impressionnée, par exemple, par la dissuasion nucléaire américaine, sachant que les États-Unis, c'est le premier État au monde qui a le plus de puissance nucléaire et conventionnelle. Donc ça pose, ça devrait aussi remettre en question, pour ces différents dirigeants, la notion de dissuasion.
Et pour la première fois, probablement, le nucléaire ne semble pas être une arme de dissuasion massive. Nous allons en reparler dans un instant sur France Info dans Les Informés. Il est 20h10. Toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
Un feu de végétation est en cours à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, au lieu-dit La Mérindole. L'incendie a démarré près d'un camping de 400 personnes qui a été évacué. D'importants moyens sont mobilisés pour maîtriser le feu. Dans l'Hérault, ce sont 500 hectares de pinèdes et de garrigues qui sont partis en fumée hier. Le feu est parti d'un engin agricole. Les pompiers restent sur place ce soir. C'est une information de nos confrères de France Inter. Michel Mercier s'est expliqué aujourd'hui pendant 5 heures sur les emplois présumés fictifs de ces deux filles. Le sénateur du Rhône, ex-garde des Sceaux et qui vient de renoncer au Conseil constitutionnel, a été entendu par les policiers de l'Office anticorruption de Nanterre. 1 tonne 2 contaminées au fipronil ont été découvertes en Roumanie, ce qui porte à 9 le nombre de pays européens frappés par cette crise alimentaire. 2 suspects ont été arrêtés aux Pays-Bas aujourd'hui et des perquisitions sont en cours dans des élevages de poules pondeuses néerlandais et belges.
France Info. Les Informés, Guillaume Caour.
Les Informés de France Info avec Sylvie Brunel, géographe, Geoffroy Carvalino, Les Républicains, Caroline Michel, l'Obs et Stéphane Rosès, consultant. Nous évoquons ce soir la Corée du Nord et les États-Unis avec cette surenchère verbale. Tiens, je vais vous dire encore des mots qui ont été prononcés cette fois-ci par la Corée du Nord. Un dialogue sensé n'est pas possible avec un tel gars qui a perdu la raison. Et là, il s'agit de qui ? Il s'agit bien évidemment de Donald Trump. Geoffroy Carvalino, je voudrais qu'on rebondisse. C'est vrai que c'est quelque chose qui probablement n'est pas arrivé jusqu'à présent, ou alors de manière très rare et isolée, c'est que la dissuasion nucléaire ne semble faire absolument aucun effet sur Kim Jong-un.
Effectivement, là, on a quand même deux chefs d'État à la fois sanga avec des caractères bien trempés. Ils sont imprévisibles et surtout qu'ils sont capables de tout, et notamment au niveau verbal. Et effectivement, je pense qu'il faut pas rester inerte et il faut aller vers une solution. Et je pense que cette solution, elle peut être diplomatique. Tout d'abord, au niveau de l'ONU, au niveau de la Chine aussi. Je pense que tous les pays membres de l'ONU doivent faire pression sur la Chine, parce qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui peut encore faire une petite pression sur Pyongyang et arrêter Kim Jong-un. Et effectivement, aujourd'hui, il faut vraiment aller dans une solution diplomatique. Et je pense que la France peut jouer tout son rôle, parce que...
Vous pensez que la France peut avoir un rôle?
Oui, la France peut avoir un rôle, parce que aujourd'hui, on a quand même des liens avec la Chine qui sont anciens, avec le Japon. On a eu avec le gouvernement de Sarkozy, Jean-Pierre Raffarin notamment, qui est très proche de la Chine, avec Martine Aubry, Jacques Chirac avec le Japon. Donc on a toujours des liens, et je pense que la France peut porter cette voix, et qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, lui qui se dit tout puissant, apparemment, nous sommes aujourd'hui, il se tout puissant, on est la deuxième puissance diplomatique après les États-Unis.
Alors,
et on
peut jouer. Sylvie Brunel, est-ce que Jupiter peut avoir un rôle sur la Chine ?
Non, moi je crois que tout reposera sur la volonté ou non de la Chine de mettre en œuvre les sanctions votées par l'ONU dimanche dernier. Ouais. C'est-à-dire que si la Chine accepte de resserrer le robinet sur la Corée du Nord...
C'est des sanctions économiques, essentiellement.
Oui, bien sûr, le robinet économique de la Corée du Nord, qui est très dépendant de ses importations, cela peut avoir une influence sur Pyongyang. Mais N'oublions quand même pas que les États-Unis ont besoin de toute façon de leur présence en Corée du Sud. C'est-à-dire que cet équilibre de la terreur, tout le monde y trouve son intérêt, sauf le peuple nord-coréen, qui subit depuis 30 ans une situation absolument terrible dont on s'est particulièrement accommodé. C'est la variable d'ajustement, le peuple nord-coréen, aujourd'hui.
Caroline Michel, à l'Obs, vous avez travaillé aussi, notamment dans les nombreux papiers que vous avez pu sortir à ce sujet-là, sur l'historique, parce que finalement, là, on se focalise dessus, parce que c'est assez spectaculaire. Et puis on le voit beaucoup, puisque ça passe par les réseaux sociaux. Mais ce conflit ne date pas d'hier. Ça fait 60 ans que ça dure.
Oui, c'est ça. En fait, il n'y a jamais eu de traité de paix. À l'issue de la guerre de Corée, ouais, en 1953, on a signé un simple armistice qui a laissé ouvert la plaie entre les deux Corées et qui fait qu'il y a un état de guerre permanent qui n'est pas réel.
Oui, mais il faut quand même rappeler qu'il y a quelques années, les Nord-Coréens ont quand même coulé une corvette sud-coréenne avec 45 morts. Ils ont bombardé une île sud-coréenne. Bill Clinton, lui, a failli appuyer sur le bouton, peut-être pas nucléaire, mais en tout cas pour bombarder des sites. Donc ça déjà été chaud par le passé.
Depuis 2003, il y a eu des pics réguliers avec, en effet, des bombardements, des essais, des tests nucléaires qui ne marchaient pas. On ne pensait pas au début que le gouvernement de Pyongyang pourrait miniaturiser suffisamment pour menacer les côtes américaines, etc. Donc c'est quand même... On a l'impression avec cette crise d'être renvoyé en arrière parce que la Chine, en effet, se retrouve, qui est en position de force aujourd'hui, se retrouve à devoir faire le juge de paix, parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que les États-Unis puissent affaiblir la Corée du Nord, réunir la Corée du Sud et tendre leur influence dans toute la zone.
Stéphane Rosès ?
Oui, effectivement, ça a été dit, le pôle de la Chine est important et en même temps, les Chinois sont très inquiets de la situation internationale et notamment de Donald Trump. C'est-à-dire que le sujet des Chinois, c'est leur harmonie interne. Or, ils constatent que le monde se replie, se renferme. Et que c'est mauvais pour le commerce international. Pour la première fois, le commerce international
aussi,
a décru...
Mais voir des Américains sur le territoire...
Alors,
oui, il y a ça, mais ils n'ont pas intérêt à un renfermement du monde parce qu'ils se disent que derrière,
oui,
c'est la
business.
Question du livre.
C'est leur croissance qui
c'est
est
leur
tombée.
Leur croissance et donc leur harmonie
bien
intérieure.
Ouais.
D'où une première historique du président Xi Jinping qui, à Davos, sort de la muraille de Chine pour s'instituer comme essayant de remettre les États-Unis dans le libre-échange. Donc, on peut faire sans doute hypothèse que la différence avec le passé, c'est que les Chinois n'ont absolument pas intérêt
à avoir un
absolument
conflit.
Pas intérêt à avoir
et c'est
un
peut-être
conflit.
Aussi ce qu'a compris
Sauf
Donald
que...
Trump et c'est pour ça qu'aussi il est aussi menaçant, c'est que
alors,
c'est un message aussi
voilà,
aux Chinois
peut-être
pour dire attention, je pourrais
ça,
vous déséquilibrer.
Il joue voilà, il
parce
joue
que
de la
début
gonflette.
Avril, Trump avait dit au gouvernement chinois régler ce problème, c'est votre problème.
Sinon,
mais visiblement
sinon on s'en occupera.
C'est ça.
Ouais.
Donc,
s'il
a décidé de s'en occuper, c'est que la Chine n'a pas...
Je voudrais faire l'avocat du diable, hein, si vous voulez bien, un instant. Finalement, le côté cash et cette communication très directe de Trump, est-ce que ça pourrait pas marcher ? Parce que finalement, elle casse les codes, elle surprend, et puis on va quand même rappeler que la méthode Obama, elle n'a pas du tout marché. Puisque les Nord-Coréens, eux, aujourd'hui, ils sont à la porte de la force nucléaire.
Vous voulez dire marcher comme quand on joue avec le feu et
non,
qu'on va regarder ça brûle ou pas ?
Mais Obama, il a eu une politique complètement différente. Le résultat, on le voit, c'est que ça n'a pas fonctionné.
Alors, la Corée du Nord a toujours mené ce qu'on appelait une diplomatie de la nuisance. Hein, c'est-à-dire que leur grande peur, c'est d'être balayé. Et le seul moyen de ne pas être balayé par aucun de leurs voisins, c'est de montrer les dents. Ils ont vu ce qui s'est passé pour d'autres pays. Les autres pays du monde, pour l'instant, ont accepté un certain nombre de tractations qui ne disaient pas leur nom, dans l'aide alimentaire, dans des codes, des aides techniques, etc. Aujourd'hui, que demande la Corée du Nord ? C'est la vraie question. Qu'est-ce qu'elle attend en échange de cette nouvelle diplomatie de la nuisance ? Quelle est son attente ? Est-ce qu'elle n'est pas, aujourd'hui, de nouveau étranglée économiquement, puisqu'on voit bien que la Chine se rapproche de plus en plus de la Corée du Sud, qu'elle a plus besoin aujourd'hui de la Corée du Sud que de la Corée du Nord ? Est-ce que ce n'est pas encore une rodomontade de Kim Jong-un pour dire « attention, nous existons », qui va se conclure par une tractation d'ordre économique ou technologique.
Geoffrey Carvalino.
Mais c'est vrai que depuis quelques temps, la Corée du Nord s'est vraiment renfermée sur elle-même. Il y a des sanctions économiques qui sont présentes. Et ça, je pense qu'on doit aussi à la diplomatie de Barack Obama. C'est-à-dire, il a évité quand même qu'il y ait une escalade de la violence, parce que c'était, on l'a bien vu tout à l'heure, ça fait 60 ans que ça dure, la guerre des Corées, donc il y a un certain maintien de la paix, des mots qui ont été pesés, et je pense que c'est ce que la région cherchait à ce moment-là, cette région où il fallait une paix entre les deux Corées, il fallait faire des sanctions économiques, et aujourd'hui, je pense que Kim Jong-un a compris qu'avec justement Donald Trump, il pouvait rentrer dans une escalade verbale qui n'est pas forcément bonne pour la région, et il veut essayer d'en profiter pour exister.
Et la Corée du Sud parle de renouer avec une politique de la main tendue, qui était celle du début des années 2000, ce qui est très intéressant. Pourquoi
conclure,
la Corée du Sud ?
Si Donald Trump frappe la Corée du Nord, est-ce que la Corée du Nord a réellement les moyens de riposter et de passer entre les mailles du bouclier antimissile américain, de riposter sur Séoul ou sur le Japon ?
Elle a totalement les moyens de détruire Séoul. Je vous le dis, Séoul n'était qu'à 40 kilomètres.
Oui, mais il y a un bouclier antimissile américain.
Oui, mais il n'est pas encore déployé. On parle de le déployer.
D'accord.
Si aujourd'hui la Corée du Nord décidait de frapper la Corée du Sud, il se prépare à cette éventualité depuis de la fin de la guerre froide et nous serions dans une situation absolument dramatique.
L'escalade verbale, en tout cas, tout à l'heure, tous les commentateurs et apparemment beaucoup de tweetos avaient les yeux rivés sur le fil Twitter de Donald Trump pour voir ce qu'il allait sortir au réveil, puisque tous les matins, il en sort un tweet. Il a toujours un tweet en bandoulière. Il est 20h20, vous êtes sur France Info, la suite des informés, la rentrée sera chaude. Éternelle prédiction de début de mandat, est-elle justifiée cette année ? Nous allons en débattre. 20h20 donc, toute l'info, Marie-Gaëtan Compte.
20 tonnes d'œufs contaminées au fipronil ont été vendues au Danemark. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait qu'une tonne d'œufs contaminée a été découverte en Roumanie. L'enquête s'accélère. Deux personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas, deux dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles, selon le parquet. Un homme a été interpellé ce soir à Rennes après avoir tenté d'arracher les armes de deux militaires de l'opération Sentinelle, selon France Bleu Armorique. Il ne s'agit pas d'un acte terroriste, mais d'une agression commise par un homme ivre. Un astéroïde de la taille d'une maison passera le 12 octobre à seulement 44 000 km de la Terre, mais il ne présente pas de danger, annonce l'Agence spatiale européenne. Plus de 400 personnes évacuées à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, au lieu-dit la Mérindole. Un incendie a démarré près d'un camping en fin d'après-midi. La suite du championnat du monde d'athlétisme de Londres, avec à 21h20 la finale du triple saut avec le Français Jean-Marc Ponviane et la demi-finale du 200 mètres dames et la Française Estelle Raffé, c'est à 22h05. La finale du 200 mètres messieurs, c'est à 22h50. Rendez-vous auquel le Français Christophe Lemaître, éliminé hier, ne participera pas.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Les informés de France Info, bienvenue si vous nous rejoignez avec Stéphane Rosès, consultant, Caroline Michel pour l'Obs, Geoffrey Carvalino pour Les Républicains et Sylvie Brunel, géographe notamment. La rentrée sera chaude, ah, on l'entend souvent, hein, ce précepte, à chaque début de mandat finalement, à chaque début de mandat d'un nouveau président. Le gouvernement et les parlementaires sont en vacances, on leur annonce une rentrée sociale chaude. Est-ce que c'est une prédiction, d'ailleurs, est-ce que vraiment c'est une éternelle prédiction de début de mandat ? Vous avez cette impression-là, Stéphane Rosès aussi ?
Oui, il y a toujours l'idée, comme en France, le politique précède et domine le social, qu'il y aurait toujours une possibilité sur le front social de corriger soit des majorités trop importantes, soit à réagir quand l'opposition politique ne l'est pas suffisamment.
Mais est-ce que dans les faits, les rentrées sociales sont chaudes ?
Alors, tout dépend,
effectivement. C'est la presse qui veut se faire peur.
Alors, les syndicats font toujours monter de la mayonnaise. Ouais. On en reparlera. La CGT a déjà annoncé une journée d'action pour le 12 septembre de la rentrée. Donc, à chaque rentrée, les syndicats jouent ça. C'est le retour des Français de vacances. Ils voient leur situation personnelle, sociale, fiscale. Donc, ça. Mais là, effectivement, vous avez raison. On est dans un contexte particulier. Une nouvelle majorité. Un président inconnu des Français il y a 4 ans, un pays qui a été bousculé plutôt positivement, psychologiquement et politiquement par l'arrivée de cette nouvelle majorité, et puis tout de suite une baisse dans l'opinion.
Et une loi
assez forte.
Et une loi délicate, la loi extrêmement produite, extrêmement inflammable, la loi travail.
Alors, la loi travaille effectivement, mais les organisations syndicales elles-mêmes intériorisent le fait que le président qui vient d'arriver a quand même une légitimité forte, premièrement. Deuxièmement, contrairement à ce qui s'est passé auparavant, l'exécutif a respecté quelques procédures de concertation sociale, ce qui n'avait pas été le cas sous Manuel Valls. Et donc, du coup, les syndicats n'auront pas forcément un rapport de force favorable.
Écoutez ce que dit d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe chez nos confrères de RTL. Il pense que la différence entre cette rentrée et cette loi et la loi El Khomri, qui avait mis beaucoup de Français dans la rue, cette fois, c'est la légitimité.
Avant l'élection présidentielle, le président de la République avait indiqué qu'il prendrait par ordonnance toute une série de mesures visant à atteindre les objectifs qu'il avait lui-même fixés. On est dans une situation extrêmement différente de 2016, où une loi avait suscité une très forte controverse parce qu'elle n'avait pas été préparée politiquement. Je le dis parce que je suis attaché à la liberté de manifester, je suis attaché à la liberté d'opinion, mais je suis aussi attaché à la démocratie.
Caroline Michel, il y a un message subliminal. Je suis attaché à la démocratie, ça veut dire on ne va pas plier.
Oui, moi je crois qu'il a raison dans son analyse de dire que la loi El Khomri avait été une levée de bouclier, d'abord parce qu'elle n'était pas prévue par François Hollande, hein, qui avait dit mon ennemi c'est la finance, la fin de quinquennat disait l'inverse. On avait une force politique qui était celle des frondeurs qui minait le pouvoir en son sein. Là, c'est certain qu'on a une forme de légitimité, de processus qui a été respecté. Je vais le faire, je vous le dis.
Mais ça, vous croyez que les syndicats vont respecter ça ? Que Jean-Luc Mélenchon lui-même va respecter ça ? Il appelle lui-même à manifester.
Il y a une volonté très forte de montrer son opposition. Je ne suis pas sûre que les Français vont suivre. Il ne suffira pas à la France insoumise et aux syndicats dont on connaît la faible représentation en France pour que la France se lève et que ce soit suffisant. Je ne doute pas qu'il l'espère, je doute qu'il puisse y arriver.
Geoffrey Carvalino.
On a eu un peu un prélude de ce que peut être la future méthode d'Emmanuel Macron, parce que là, on a vu à peine une petite pétition qui a fait 200 000 signataires sur le statut de la Première Dame, et directement, il a reculé, il veut plus de statut de la Première Dame. Donc vous imaginez en septembre ce que cela va donner face à des millions de Français dans la rue, et je pense que...
C'est-à-dire que pour vous, il n'est pas tenace ?
Pour moi, la politique d'Emmanuel Macron, c'est on essaye d'avancer et en même temps on recule. En fait, c'est la politique du point mort. Et pour moi, je pense qu'il sera pas tenace
sur les APL, il
sinon,
a parculé.
Il a parculé. Alors à chaque fois, c'est il teste.
Ouais.
Et en même temps, juste après, pour utiliser son expression, et ensuite, en même temps, il recule. C'est-à-dire, il teste, il voit ce que donne la rue.
Ça, c'était François Hollande, non ?
Nicolas Sarkozy.
Non, je dirais pas Nicolas Sarkozy, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le digne héritier de François Hollande. C'est-à-dire qu'il teste, mais il n'avance pas. C'est-à-dire, la France, malheureusement, elle doit se réformer, et malheureusement, peut-être qu'Emmanuel Macron ne prend pas la bonne direction.
Sylvie Brunel.
Alors, sur la méthode qui consiste à lancer quelque chose et de voir si la rue se mobilise ou pas, je confirme que c'est ce que faisait Nicolas Sarkozy. Il le disait lui-même d'ailleurs, il disait « on va voir, on balance ça, s'il gueule beaucoup, on fera machine arrière ». Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est qu'il procéderait par ordonnance, il l'a dit. Sur le code du travail. Donc on risque effectivement à la rentrée d'avoir une confrontation. D'autant plus qu'on a l'impression quand même que l'état de grâce n'a pas été valorisé comme il l'aurait dû. Les Français n'ont pas été très séduits par la venue de Donald Trump le 14 juillet, par la venue de Rihanna.
De Poutine.
Faire des ronds de jambes à l'extérieur, même quand on donne l'impression d'être fort, ça c'est un bon lapsus. ça ne sert pas du tout. Les Français qui attendaient quelque chose pendant ces 3 mois conforme à ce qu'avaient été les déclarations de campagne. Ça n'a pas été le cas. On peut penser qu'aujourd'hui tout le monde est en vacances, y compris le gouvernement d'ailleurs, mais que c'est reculé pour mieux sauter à la rentrée. Moi, c'est en tout cas ma conviction.
Stéphane Rosès, là on est focalisé sur cette loi travail, parce qu'il y a eu la loi El Khomri, puis on sait que c'est un sujet sensible, mais est-ce qu'il y a un autre sujet qu'on ne voit pas et qui est inflammable ?
Je crois que le sujet latent au fond, c'est de revenir à ce que Emmanuel Macron a bien repéré et dit au Congrès devant les parlementaires réunis, c'est que le premier mandat qu'il a reçu des Français, c'est le retour de la souveraineté de la nation. Or, le problème de la démission du chef d'état-major ou des APL, c'est une contradiction entre ce que comprend bien Macron, pourquoi lui ? Parce qu'il est le seul à avoir dit aux Français, En Marche, on ne va pas se définir par rapport à l'extérieur, on ne va ni résister à la mondialisation, ni se coucher devant. ni Mélenchon, ni Fillon. C'est nous qui allons décider de notre destin. Et donc, Macron a bien compris que c'était ça, le ressort de sa victoire, et il le dit. Eh bien, le problème de ce qui s'est passé là, c'est quoi? C'est qu'il y a une contradiction entre la posture générale projective de Macron et ce que fait le gouvernement. Parce que le gouvernement, lui, au quotidien, il doit gérer des contraintes, il doit tenir les deux sets. Voilà.
Il y a une contradiction. Macron, il a 5 ans, le gouvernement, il a la semaine, c'est ça?
Il y a une contradiction entre la posture générale projective du président et un gouvernement qui justifie APL, renier l'armée, les 2-7, au nom de contraintes extérieures comptables. Et de cette contradiction, on a la baisse de popularité, c'est-à-dire que le vrai rendez-vous, ce sera avec Angela Merkel après les élections, pour convaincre nos amis allemands que chaque pays a besoin d'avoir des marges de manœuvre permettant à son génie et à son modèle de se réformer.
Eh bien voilà donc les enjeux de cette rentrée, et peut-être quelques députés ou ministres qui nous écoutent, voilà, vous êtes servis pour vos devoirs de vacances et vos réflexions. Nous allons dans quelques instants, comme promis, nous pencher sur un produit, les ovoproduits. Qu'est-ce que ça dit de notre consommation alimentaire? Pour l'instant, la météo, les infos. Pour la météo.
La journée s'annonce encore instable demain, du nord à l'Alsace jusqu'au Massif central et aux Alpes. Des averses se produiront tout au long de la journée. Le risque sera plus faible en matinée, notamment en Champagne et Bourgogne, mais l'après-midi, les averses seront plus fréquentes. Sur les Alpes, ces averses pourront même être neigeuses des 2000 à 2200 mètres d'altitude. Le temps sera plus sec et lumineux sur la façade ouest, entre les côtes de la Manche et le Finistère, et des Pays de la Loire à l'Aquitaine jusqu'au Midi toulousain et aux Pyrénées. Autour de la Méditerranée, le vent va nettement se renforcer. En Corse, les rafales seront même violentes, dépassant les 100 km par heure sur le relief et la Balagne. Ce vent fort va tout de même bien dégager le ciel et on profitera d'une journée ensoleillée. Les températures minimales vont se maintenir entre 9 et 19 degrés et les maximales gagneront quelques degrés mais resteront bien fraîches pour la saison, atteignant 17 à 25 degrés en général et 25 à 30 degrés autour de la Méditerranée.
Sébastien Léas, merci Sébastien. Il est 20h30, vous êtes sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et toute l'info, c'est avec Marie-Gaëtane Comte.
Un feu de végétation est en cours à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, au lieu-dit La Mérindole. L'incendie a démarré près d'un camping de 400 personnes qui a été évacué. D'importants moyens sont mobilisés pour maîtriser le feu. Dans l'Hérault, ce sont 500 hectares de pinèdes et de garrigues qui sont partis en fumée hier. Le feu est parti d'un engin agricole. Les pompiers restent sur place cette nuit. Le risque d'incendie est très élevé en Corse, alors que Météo France annonce un renforcement du vent demain, avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Plusieurs massifs forestiers de l'île seront fermés ce vendredi. 20 tonnes d'œufs contaminées au fipronil vendues au Danemark. Un peu plus tôt dans la journée, une tonne d'œufs contaminée a été découverte en Roumanie. L'enquête s'accélère. 2 personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas. 2 dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles, selon le parquet. L'homme soupçonné d'avoir blessé 6 militaires de l'opération Sentinelle en fonçant sur leur véhicule de patrouille hier matin à Levallois-Perret est toujours hospitalisé à Lille. Son état de santé ne lui permet pas d'être entendu par les enquêteurs. Très vite après cette nouvelle attaque des militaires, l'efficacité du dispositif Sentinelle a été remis en cause. Quelles relations les habitants entretiennent-ils avec les militaires? Élément de réponse avec ce reportage dans le 15e arrondissement de Paris, signé Boris Loumagne.
Le fusil en bandoulière et le visage fermé, c'est dans une certaine nervosité que les militaires partent en patrouille aujourd'hui. Rose habite juste à côté de l'ancienne mairie du 15e, là où les soldats ont élu domicile.
Je les vois entrer, sortir et je trouve assez rassurant.
Les militaires sont un peu ses voisins en somme.
Je dis bonjour, je suis passé le nouvel an, je leur souhaitais la bonne année. Ils étaient ravis et moi aussi.
De la considération, juste quelques mots pour montrer sa gratitude, c'est important pour Jacqueline, abritée sous son parapluie.
Moi, quand je les vois dans la rue, je les remercie d'être là. Il faut un sourire.
Un sourire, oui, mais pas plus, selon la boulangère du quartier.
Il y a quand même une relation de confiance en sachant qu'ils sont là, mais les gens, après, restent assez distants. Je vois pas pourquoi on irait interrompre des gens qui sont en train de faire leur travail.
Même réaction chez le coiffeur, juste à côté.
On a la blonde là-bas et la brune là.
La blonde, c'est Christelle. Oui, elle soutient les militaires, même si une certaine distance s'impose.
Ils sont là plus pour, effectivement, regarder ce qui se passe. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que répondre à nos questions.
Nathalie, la brune, opine du chef.
On n'est pas là pour sympathiser avec eux.
travail, quoi.
Tandis que dehors, sous la pluie, les passants courent s'abriter. Les militaires, eux, poursuivent leur patrouille calmement.
Et en attendant l'audition du suspect pour savoir ce qui a motivé le geste de cet Algérien de 36 ans, les enquêteurs vont explorer son téléphone portable et son ordinateur. 20h33 sur France Info. La suite des informés avec vous, Guillaume Cahour.
Les informés, Guillaume Cahour.
La suite des informés de France Info avec Sylvie Brunel, géographe et écrivain notamment de plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde. Geoffrey Carvalino pour Les Républicains, Caroline Michel pour l'Obs et Stéphane Rosès pour la société de conseil CAP que vous présidez. Les œufs aux insecticides, ce scandale nous révèle à nous, consommateurs, un marché. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler. C'est ce marché européen des ovoproduits. Patrick Dehaumont est le directeur général de l'alimentation en France et il enquête donc sur cette filière.
Le deuxième volet de l'enquête, c'est le contrôle renforcé de l'ensemble des établissements français qui fabriquent des ovoproduits, il y en a entre 70 et 80, pour identifier la source de leurs approvisionnements et voir s'ils ont éventuellement eu des approvisionnements belgo-néerlandais et s'ils venaient dans ce cas-là d'élevage contaminé.
70 à 80 établissements qui donc produisent ces ovoproduits. Sylvie Brunel, vous connaissez ça, les ovoproduits, expliquez-nous ce que c'est exactement.
Oui, alors la France est le premier producteur et consommateur d'œufs en Europe.
On en consomme 216
par habitant et par an. Ouais. Mais 60% sont consommés sous forme directe et 40% sont consommés sous forme d'ovoproduits, c'est-à-dire qu'ils sont cassés dans des casseries et ils sont incorporés dans tous les produits alimentaires, les brioches, les plats cuisinés, etc. La restauration aussi. Pourquoi ? Parce que quand vous tenez un restaurant, ça va beaucoup plus vite de faire venir des bidons d'œufs qui sont déjà prêts, jaunes ou blancs, plutôt que de casser vous-même vos œufs, d'autant que même sur un point de vue d'hygiène, il vaut bien mieux avoir ces bidons avec des œufs qui ont été contrôlés que, eh bien, si vous avez des poules, je ne sais pas si vous avez des poules, Guillaume, quand une poule pond un œuf, eh bien, cet œuf peut être évidemment sali, et donc il faut mirer ces œufs pour vérifier qu'ils sont sains. Alors, aujourd'hui, on est en train de monter en mayonnaise une affaire qui, en réalité, pose des questions sur la traçabilité au niveau européen de l'information, mais qui n'est nullement un risque sanitaire. C'est-à-dire que le risque d'empoisonnement est nul. Or, on n'arrête pas de parler de scandale des œufs contaminés.
Il y a scandale dans le sens où les Pays-Bas ont mis des mois à...
Alors, les Pays-Bas utilisaient ce produit depuis novembre 2016, ils n'en ont pas parlé. Il a fallu que la Belgique soit informée pour
qu'elle-même
dire,
elle traîne après.
Voilà, alors en France, il y a 80 casseries qui travaillent, il y en a 5 qui auraient éventuellement importé ces œufs, mais disons quand même à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a aucun risque.
Caroline
c'est ça
Michel.
Qui est important.
Alors, je suis d'accord et pas d'accord, mais je vais commencer par une question. Qui parmi vous a un chien ou un chat?
Vous faites du frontline, entre ses épaules.
Vous avez un chat, vous êtes contaminé au fipronil, ou vos enfants l'aident.
Je ne mange pas, moi, du frontline.
Mais vous caressez votre chat.
Oui, mais par contact, en fait, on avait fait, il y a 2 ans, à l'Obs, une analyse des cheveux de 50 enfants, et on avait des enfants qui avaient des surdosages en fipronil dans les maisons. On fait ça à l'Obs. On fait plein de choses. Parce qu'il y avait un chat. Donc, je suis d'accord et pas d'accord. D'accord au sens où le produit en lui-même
est utilisé. Juste parenthèse, le fipronil, c'est ce fameux produit insecticide qu'on a retrouvé dans les œufs.
C'est un insecticide qui contre les poux et les tiques. Il est quand même très embêtant et on n'arrive pas à le maîtriser pour les enfants, les jeunes enfants, les fœtus, les femmes enceintes, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est neutre. Mm-hmm. Moi, je trouve que cette affaire, pourquoi c'est un scandale et un vrai scandale, ça révèle tout ce qu'on n'aime pas sur l'Europe, c'est-à-dire à la fois ces échanges internationaux, un fournisseur roumain qui a fourni 3000 litres à une personne qui fait des produits chimiques en Belgique, qui les a renvoyés chez des éleveurs aux Pays-Bas, qui les a renvoyés dans tout un tas de fabricants de vos produits, enfin tout ça se diffuse. Qu'est-ce que ça nous dit ? Un, il n'y a pas de contrôle sanitaire au niveau européen.
Il y a la libre circulation, mais il n'y a pas le contrôle.
Exactement. Mmh. Deux, il n'y a pas d'entraide au niveau européen, parce que les enjeux économiques sont tellement forts, notamment pour nous, pour l'industrie agroalimentaire, mais au niveau européen, Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Que chacun essaye de se renvoyer la balle. Les Pays-Bas disent c'est la photo belge, les Belges disent c'est la photo hollandais, qui du coup sont allés mettre en prison des gars aujourd'hui pour dire on agit. Au final, qu'est-ce qui se passe? La Belgique l'a su en juin. Elle a fait une alerte au réseau européen le 20 juillet. Il a fallu attendre le 4 août qu'un distributeur allemand
retire les produits
pour que d'un coup les autorités françaises, enfin sanitaires européennes, mais y compris françaises, disent « Ah oui, c'est vrai, il est en train de se passer quelque chose ». Tout ça pour que le 9 août, on diligente une enquête et on ne sait toujours pas où sont passés ces produits. Donc la question n'est pas de la toxicité. On avait eu Findus il y a un an ou deux avec l'histoire du cheval. La question, c'est que dans ce marché européen, on prend conscience que personne ne sait ce qui se passe et personne ne sait qui contrôle.
Oui. Alors, Stéphane Rosès, termes d'opinion, dans le prolongement rapidement de ce que vous dites, en termes d'opinion, c'est tout à fait dramatique parce qu'il y avait deux secteurs où l'Europe était créditée, l'environnement et la protection du consommateur.
Ah, et donc oui, c'est là, l'opinion publique, c'était ça?
Oui, jusqu'à maintenant. Et donc l'opinion publique, là, ne comprend pas, quasiment comprend pas. On a
on
une Europe qui est tatillonne,
sur
nos fromages et tout ça. Et quand il y a des choses flagrantes, ça ne se passe pas bien. Donc l'impact de l'opinion dans un climat de défiance, non pas à l'égard de l'Europe, mais des institutions européennes de Bruxelles, ça arrive évidemment à un mauvais moment.
Les ovoproduits, est-ce qu'on vous les sert dans un biscuit, un plat cuisine industrielle ou une omelette au restaurant? La suite des informés dans un instant. Il est 20h40, toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
L'enquête s'accélère dans le scandale alimentaire des œufs contaminés au fipronil. Deux personnes ont été arrêtées aujourd'hui aux Pays-Bas. Deux dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles, selon le parquet. On apprend ce soir que 20 tonnes d'œufs contaminés ont été vendues au Danemark, tandis qu'une tonne de jaune d'œufs ont été découverts aujourd'hui en Roumanie. Plus de 400 personnes évacuées à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône, au lieu-dit la Mérindole. Un incendie a démarré près d'un camping en fin d'après-midi. C'est une information de nos confrères de France Inter. Michel Mercier s'est expliqué pendant 5 heures sur les emplois présumés fictifs de ses deux filles. Le sénateur du Rhône, ex-garde des Sceaux, et qui vient de renoncer au Conseil constitutionnel, a été entendu aujourd'hui par les policiers de l'Office anticorruption de Nanterre. L'horreur au large du Yémen. Depuis ces dernières 24 heures, près de 300 Africains migrants ont été jetés à la mer par des passeurs. Tous venaient d'Éthiopie et de Somalie. Au moins 50 d'entre eux sont morts. L'information a été communiquée par l'Organisation internationale pour les migrations.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h41, la suite des informés. Oui, Stéphane Rosès, nous allons parler de cette loi antiterroriste dans quelques minutes. Mais on reste encore un peu avec nos omelettes. Stéphane Rosès est consultant, Caroline Michel au service enquête de l'Obs, Geoffroy Carvalino pour Les Républicains et Sylvie Brunel est géographe et écrivain, notamment un ouvrage plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle en tant que consommateur avec ces ovoproduits. C'est que depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on prend conscience qu'il y avait une prise de conscience autour des œufs et des poules élevées en batterie. Les consommateurs refusent de plus en plus ce genre de choses. Et moi, j'avais l'impression d'avoir fait le tri. Aujourd'hui, je fais attention, je prends soit du bio, soit des œufs de poules élevées en plein air. Et là, finalement, je réalise que 40% de ma consommation, je ne sais pas d'où elle vient. Je ne sais pas d'où viennent ces œufs, ces ovoproduits. Il n'y a pas de traçabilité sur les emballages.
Bien sûr que si, parce que
c'est-à-dire que si je regarde il n'y a pas de traçabilité.
Mais tous les œufs utilisés dans les industries agroalimentaires et dans la restauration hors domicile, ce qu'on appelle la RHD, utilisent des ovoproduits. C'est même obligatoire.
Mais d'accord, mais quand je prends l'emballage, est-ce qu'il y a marqué que mes ovoproduits sont bio et qu'ils
Alors,
viennent
attendez, pas du Pays-Bas? Je voudrais quand même vous dire que penser que vous vous garantissez la sécurité sanitaire en mangeant bio n'est pas une garantie, tout simplement parce que l'Académie d'agriculture dit les risques de contamination fongique, bactériologique sont plus importants en bio. Donc, sachez
fongique,
juste...
bactériologique, c'est-à-dire fongique,
c'est les mycotoxines, bactériologique, c'est les bactéries.
Parce que comme on met rien, comme on met pas de produit, il y a plus de bactéries, c'est ça?
Disons que l'agriculture qu'on ne cesse d'incriminer aujourd'hui comme si elle avait failli, cette agriculture qu'on appelle intensive ou productive, c'est celle qui a permis de relever le défi alimentaire en France et dans le monde en baissant le prix de la nourriture, en garantissant l'approvisionnement des villes. Comme nous avons oublié la peur de manquer aujourd'hui, nous voudrions revenir à une autre agriculture. Et c'est probablement quelque chose, quand on a un pouvoir d'achat, quand on a envie de se... C'est quelque chose que
c'est
je respecte tout à fait. Voilà. Mais il faut faire très attention parce que là, on est en train, une fois de plus, de jeter l'opprobre sur des agriculteurs qui ont réussi le prodige de nous nourrir en toute saison et à bas prix.
Donc moi, même si ce n'est pas très appétissant, ces ovoproduits, il ne faut pas...
Mais ce n'est pas très appétissant. Ah. Moi, il se trouve que j'ai des poules. Quand vous avez une poule, vous avez des œufs qui sont...
Moi, je ne trouve pas ça très appétissant. Un bison de 3 litres d'œufs liquides...
Mais des œufs qui viennent du poulailler, ils sont... Il faut se souvenir des salmonelles, de ce qu'on avait. C'était une des principaux risques de contamination.
Bien évidemment. L'industriel est plus propre.
Mais ce qu'on retient en ce moment, c'est qu'il y a un vrai manque d'informations aux consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça crée une certaine panique, c'est-à-dire même des gens qui tiennent des petits commerces, des gens qui viennent les voir, hein, vous m'avez vendu des œufs contaminés, on ne sait pas. Hier, il y a le ministre de l'Agriculture, qui est Stéphane Travert, qui a fait une conférence de presse assez invraisemblable, qui ne savait pas trop en réalité est-ce que c'est contaminé, est-ce que ce n'est pas contaminé, quel produit serait contaminé. On lui parle de risques de précaution, il ne sait pas. Et effectivement, là, on voit qu'il y a un problème avec l'Europe, parce que les Pays-Bas, qui étaient au courant depuis novembre dernier... Ensuite n'a pas prévenu la Belgique, et puis également aujourd'hui il y a quand même un commissaire européen de l'agriculture qui est Phil Hogan, et en fait on se demande que fait l'Europe dedans. Il y a des produits qui sont vendus comme ça, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir au niveau européen des organismes certificateurs qui pourraient dire ces produits-là peuvent être vendus, peuvent être contrôlés, qu'il y ait une coordination européenne de l'agriculture, parce que on disait on est les premiers consommateurs en France d'eux, tout à l'heure ça a été dit, et puis également on a une super agriculture française et européenne qu'il faut valoriser. Et il faut qu'il y ait une coordination européenne, sinon on ne s'en sortira pas.
Caroline Michel ?
Oui, il y a une injonction contradictoire, parce qu'à la fois, on ne tombe plus malade de notre alimentation, dans notre mode de consommation occidental, on ne meurt plus de notre alimentation, ce qui arrivait fréquemment, et en même temps, c'est grâce, en effet, au progrès de l'industrie, c'est malgré tout... j'ai perdu le fil, pardon. On a une injonction contradictoire parce qu'on voudrait avoir gardé l'agriculteur à côté de chez nous et la protection,
avec des niveaux de qualité et un prix.
Exactement.
C'est ça, ouais.
Donc, on est face à peut-être un paradoxe et presque un problème de nantis, mais qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en soucier, parce que évidemment que c'est extrêmement grave que l'on mette un produit interdit et toxique dans les produits industriels. Mais il y a toujours cette histoire de curseur qui est difficile à placer dans nos modes de consommation.
Stéphane Rosès ?
Oui, quand les intérêts privés aussi importants se déploient, il faut qu'il y ait des institutions soit nationales, soit européennes, qui effectivement cadrent les choses. D'autant, ça vient d'être dit très justement, que les opinions publiques sont un peu oublieuses. Au fond, sur la question alimentaire, c'est le même sujet que sur la question des vaccins ou de la pharmacie.
Ingrate.
C'est-à-dire que quantitativement, nos sociétés ont extraordinairement avancé dans le bon sens. Et en même temps, on a une opinion publique qui, comme c'est acquis, va regarder non pas le progrès massif qu'entraîne l'industrie pharmaceutique, les vaccins, mais vont aller chercher les éléments de dysfonctionnement. Alors néanmoins, effectivement, si on a à la fois les États-nations qui s'affaiblissent sans que les institutions européennes prennent le relais, alors il y a de toute façon systématiquement une dégradation.
Je voudrais revenir sur ce que vous avez souligné tous les deux tout à l'heure, Caroline Michel et Stéphane Rosès, sur le délai de réaction et puis presque même la rétention d'informations de la part de la Belgique, de la part des Pays-Bas sur cette affaire et sur ce scandale des œufs aux insecticides. Est-ce que... Quoi ?
C'est pas le scandale des œufs aux insecticides.
Bah, excusez-moi, mais fait qu'il y ait des... c'est un scandale qu'il y ait des insecticides.
Qu'on a traité, alors entre le poulailler, la poule et l'œuf, on le retrouve 0,09 mg éventuellement. D'accord, mais
si vous dites que c'est pas dangereux pour la santé, il devrait pas y être.
Si vous mettez un aftershave, à mon avis, vous contaminez plus qu'en mangeant un œuf.
Non, mais peut-être, mais en attendant, ces insecticides, il a rien à faire dans un œuf.
Je suis d'accord avec vous, c'est
donc
ce qu'on
c'est
a
scandaleux.
Dit. Non, ce n'est pas scandaleux, c'est une dérive, mais qui a pour conséquence négative de jeter l'opprobre sur une profession qui a relevé le défi fabuleux de nous nourrir.
La profession, elle n'y peut rien. Elle a acheté,
mais
elle a acheté ce produit.
Mais c'est systématiquement eux qui...
La profession, elle a acheté ce produit.
Oui, mais
c'est un produit
aujourd'hui,
frelaté.
Qu'est-ce qu'on fait? On détruit les œufs, on détruit les poules, et les gens se méfient. Donc, une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui sont déjà dans une situation extrêmement difficile qui en subissent le contrôle.
Oui, Sylvie, mais c'est parce qu'il y a quand même un dysfonctionnement en amont. Il ne s'agit pas de remettre en cause ou jeter l'opprobre sur l'ensemble des agriculteurs. Mais à un moment, il y a eu un dysfonctionnement sans doute des autorités, soit nationales, soit européennes, en matière...
Est-ce que c'est parce que ces autorités, elles, n'ont plus confiance, soit ne se sentent pas plus concernées par un processus européen?
Ça nous envoie à deux peurs, en fait. Pourquoi vous ne dites pas la même chose? C'est-à-dire que si on est simplement sur l'aspect sanitaire, Sylvie Brunel a probablement raison. Mais ça nous renvoie à deux peurs très profondes et très fortes. La première peur, c'est celle de la puissance des intérêts économiques, parce que ma référence à l'agriculteur de proximité, c'est qu'est-ce que sont ces multinationales qui se fournissent, on ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas selon quels critères. Et l'autre peur, qui est quelque chose d'assez diffus aussi, c'est ce fameux fipronil, fait partie de cette grande famille des perturbateurs endocriniens, dont on nous dit que ça a des conséquences sur le développement hormonal, sexuel de nos enfants, et dont personne, enfin c'est quand même un des grands débats scientifiques aujourd'hui, qui a été tranché de manière assez contradictoire par l'Europe et dont personne ne sait nous dire aujourd'hui s'il faut le craindre ou pas. Donc même si, je vais essayer de faire le modérateur entre vous, même si sur le fond scientifique, sans doute Sylvie Brunel a raison, ça soulève des problèmes, des questionnements qui correspondent à deux peurs très fortes et les multinationales économiques et les perturbateurs endocriniens qui sont des vrais questionnements.
Eh ben, on a commencé avec les ovopropres. On termine avec les perturbateurs endocriniens. Voilà, tout ceci, ce sont des bien beaux mots, bien poétiques.
C'est pour nous alléger.
Oui, exactement. Caroline Michel pour l'Obs. Les informer, dans quelques instants, la loi antiterroriste répond-elle à la menace après notamment cette attaque sur les soldats de Sentinelle? 20h50 sur France Info. Toute l'info, Marie-Gaëtane Comte.
D'importants moyens mobilisés en ce moment à Port-de-Bouc, dans les Bouches-du-Rhône. Un incendie a démarré près d'un camping en fin d'après-midi. Le feu se dirige vers Martigues. 200 pompiers assistés de 9 canadaires sont sur place. 20 tonnes d'œufs contaminées au fipronil vendues au Danemark. Un peu plus tôt dans la journée, on apprenait qu'une tonne d'œufs contaminées a été découverte en Roumanie. 2 personnes ont été arrêtées aux Pays-Bas. 2 dirigeants de l'entreprise qui a probablement appliqué le produit dans les élevages avicoles, selon le parti. Le trafic entre Paris et l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle sera perturbé le week-end prochain à partir de 22h30 samedi soir et toute la journée de dimanche. En cause, une interruption totale de la circulation du RERB entre la station Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois. Le trafic reprendra normalement lundi matin. Un astéroïde de la taille d'une maison passera le 12 octobre à seulement 44 000 km de la Terre. Mais il ne présente pas de danger, annonce l'Agence spatiale européenne.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Il est 20h51, la suite et la fin des informés. Les dernières attaques terroristes nous rappellent que la menace ne faiblit pas. L'état d'urgence a été promulgué et il a été reconduit plusieurs fois depuis les attentats de novembre 95 à Paris. Le Sénat a voté la nouvelle loi qui sera donc débattue à la rentrée à l'Assemblée. Alors quelques points clés, il y a la sécurisation des lieux ou des événements avec inspection et filtrage. Il y a la fermeture temporaire des lieux de culte sur décision préfectorale en cas de propagande terroriste. L'assignation à résidence élargie au périmètre de la commune, ou encore la perquisition administrative, mais cette fois-ci validée par un juge. On avait cet état d'urgence. Est-ce que finalement, on n'est pas en train d'institutionnaliser dans le droit commun l'état d'urgence? Geoffrey Carvalino, pour les Républicains.
Sur les questions de terrorisme, je pense que là, c'est une question où tout le monde doit aller dans le même sens, c'est-à-dire que droite, gauche, centre, macroniste, on doit vraiment aller dans un sens pour répondre à ce fléau, et notre génération, ma génération de jeunes, va vivre avec cela peut-être pendant 20 ans sur le dos. Et le seul regret que j'ai, c'est que dommage que ça n'a pas été débattu très rapidement. On a vu la loi sur la moralisation, qui était un gadget.
Pour vous, c'était ça l'urgence?
C'était pas l'urgence. Bah oui, bien sûr. C'était c'était plus urgent, surtout qu'on parle de l'arrêt de l'état d'urgence. Moi, je pense qu'il faut reprendre l'idée de Valérie Pécresse, qui est un état de haute sécurité. Parce qu'effectivement, l'état d'urgence...
C'est quoi l'état de haute sécurité?
L'état de haute sécurité, c'est tout simplement pour rassurer et pas pour faire peur, parce qu'on doit aussi attirer, la France doit attirer du tourisme, et c'est vrai que ce mot état d'urgence, on ne peut pas le proroger éternellement, il faut passer vers un état de haute sécurité qui garantit la sécurité de tous, mais qui va aussi dans un bon sens, avec des lois dans un état de droit, et je pense qu'aussi, on devrait parler aussi avec les géants de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, nos jeunes dans nos quartiers, ils sont embrigadés via Facebook, via Twitter, via les réseaux sociaux.
Il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés.
D'efforts, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, qu'il faut que ce soit même une conférence au niveau mondial, parce que...
C'est vrai qu'il n'y a absolument rien là-dessus dans la loi antiterroriste.
Moi, j'en entends pas parler. J'en entends pas parler et qu'il faut vraiment aller dessus, parce qu'aujourd'hui, moi, je le vis au quotidien, je suis de Seine-Saint-Denis, j'habite Pantin, j'ai vécu à la Cité des 4000 à la Courneuve, et malheureusement, c'est un outil de propagande, et j'en connais qui ont été embrigadés par ça. Et
ça aujourd'hui... fait partie des attributions de la Task Force anti-Daesh qu'ils ont créée à l'Élysée.
Il faut aller beaucoup plus loin et vraiment s'emparer de ce sujet-là et discuter avec les gens de l'Internet, parce qu'aujourd'hui, notre jeunesse, malheureusement, est touchée par cela et il faut vraiment y répondre.
Stéphane Rosès, les chiffres de l'état d'urgence, je les ai trouvés sur un article du Monde. Entre novembre 2015 et janvier 2017, d'après le ministère de l'Intérieur, 26 attentats ont été déjoués en France. Sur une période équivalente, les mois précédents, il y avait eu 8 attentats qui auraient été déjoués. Donc c'est vrai que là, on a l'impression que ça a bien marché. En revanche, 4300 perquisitions administratives, 0,7% seulement abouti à des procédures pour terrorisme. Donc cette loi qui s'inspire quand même de l'état d'urgence, est-ce qu'elle sert à quelque chose d'après vous ?
Elle sert à quelque chose, mais je ne suis pas un spécialiste en question de lutte anti-terrorisme, mais d'abord, très clairement, du point de vue de l'opinion, il y a une attente que l'État se donne des moyens qui n'existaient pas jusqu'à maintenant, c'est la première chose.
Donc c'est un message politique ?
Il y a d'abord, très certainement, un message politique. Il y a deuxièmement autre chose qui est la question de... l'articulation entre le pouvoir du juge et la question des policiers. Il y a, on le sait, des règles. Le juge a des considérations qui sont un tout petit peu différentes que celles des policiers. Donc, c'est affaire d'équilibre. Mais pour revenir à votre question initiale, vous avez raison. Cette loi qui est passée là au Sénat les 18 et 19 vise déjà à institutionnaliser des mesures en les faisant rentrer dans
c'était
le droit commun.
C'était
des mesures exceptionnelles. Il faut qu'elles perdurent parce que le risque est toujours présent, on vient de le voir très récemment. Et en même temps, il y a les questions de l'état de droit. Donc c'est un travail un tout
mais
petit peu d'équilibriste.
Vous venez de dire « et en même temps ».
Il y a un travail
d'équilibrisme.
Il y a un travail d'équilibrisme. Bon, moi, je voudrais insister quand même sur le fait qu'évidemment, la lutte contre le terrorisme, c'est l'aval de processus qui ont des raisons beaucoup plus profondes. Je pense que quand la France sera en capacité de dire à sa jeunesse qu'il y a un avenir commun et que l'avenir n'est pas enclavé, ce sera déjà une première façon de lutter contre la radicalisation. Quand toute la classe politique sera au clair sur qu'est-ce que la République, qu'est-ce que la laïcité, comment on combat des associations dites culturelles, dont certaines sont liées, au nom de la lutte contre l'islamophobie, avec des puissances étrangères. Quand il y aura tout ce travail déjà de fait, d'un point de vue pas seulement répressif en aval, mais sur le fond, sur l'avenir que l'on donne à l'ensemble de nos jeunes, mais aussi...
Ça montre qu'il y a quand même un énorme travail qui va au-delà, bien au-delà de la lutte anti-terroriste, Caroline Michel.
Il y a tout un pan qui n'est pas fait.
Je crois qu'on est assez d'accord collectivement que cette loi antiterroriste vise à mettre dans l'état de droit des mesures exceptionnelles et qu'on n'a pas beaucoup le choix. En vérité, on vit une situation exceptionnelle qu'on n'a pas connue, hormis peut-être dans la période de la guerre d'Algérie, que pour ma part, je n'ai pas connue. Il fallait bien passer par cette pérennisation pour que une situation exceptionnelle n'entraîne pas des pouvoirs exceptionnels. exceptionnel en permanence. Donc le fait que le Sénat ait assoupli, moi je trouverais formidable par exemple qu'on envisage de revenir devant le Parlement tous les ans pour proposer, dire quels sont les pouvoirs, de quoi on a besoin, où on en est de la situation.
Le cas, hein, ça sera le cas, hein, voilà, de revenir devant le Parlement pour vérifier l'efficacité.
Exactement, nous permet de limiter le caractère exceptionnel. Maintenant, j'aurais une grande différence d'analyse par rapport à Stéphane Rosès. Je pense que l'ennemi n'est pas à l'intérieur, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, de savoir quel avenir on donne à nos jeunes, etc. L'ennemi, il est à l'extérieur, dans cette diffusion de l'islam radical, par des puissances extérieures qui mènent d'une manière ou d'une autre, si ce n'est une guérilla, et tant qu'on ne se sera pas armé contre ça, ce sera très compliqué.
Je voudrais juste avoir un mot pour nos forces armées qui sont épuisées, qui servent aujourd'hui de paratonnerre, qui sont systématiquement les cibles depuis quelques mois et quelques années des attaques. Alors, elles protègent, elles rassurent la population, elles n'en peuvent plus. Les épouses de militaires lancent un appel aujourd'hui. Pensons à ces forces qui nous protègent et qui en payent le prix.
Sylvie Brunel, Geoffroy Carvalino, Caroline Michel et Stéphane Rosès, merci beaucoup d'être venus dans les informés de France Info. Caroline Michel, la une de l'Obs. Rapidement.
C'est Éric Orsenna qui nous parle de La Fontaine, l'éternel moraliste.
Une pour les vacances. Bonne soirée à tous sur France Info. Dans un instant, la météo et les infos.